Bonsoir, on va commencer cette seconde partie de cette soirée d'anniversaire des éditions de l'Olivier, avec pour titre en version originale The Great American Novel. C'est pas évidemment un hasard qu'après cet ensemble de lectures par différents écrivains qui écrivent en français et sont publiés aux éditions de l'Olivier, la deuxième partie soit consacrée à la littérature américaine. Non pas que les éditions de l'Olivier ne publient en matière de littérature étrangère que de la littérature traduite de l'anglais, et a fortiori que de la littérature américaine. Il y a aussi beaucoup de littérature anglaise ou britannique, pour le dire vite. Il y a aussi des livres de littérature étrangère traduits d'autres langues, en particulier du chinois, du russe, de l'allemand, notamment. Enfin, c'est vrai, si on regarde le catalogue après 20 ans, que les romans traduits de l'anglais, entre parenthèses États-Unis, comme on écrit parfois, ou traduits de l'américain, sont extrêmement nombreux. Alors pour parler de ce grand roman américain ce soir avec Olivier Cohen, Marc Amfreville, qui est un spécialiste de littérature américaine, puisqu'il l'enseigne, il est professeur à l'université Paris 4, mais également traducteur de littérature américaine, y compris de littérature américaine contemporaine, notamment Rick Moody, par exemple. Et puis Adam Thirlwell, qui lui n'est pas américain, et britannique, romancier, essayiste aussi, animateur d'une revue littéraire, et d'abord peut-être avant tout curieux de littérature au pluriel, de littérature américaine, j'espère, mais on le sait aussi de littérature d'Europe de l'Est, puisqu'on en trouve des traces dans son travail d'écrivain. Ces deux textes, politique et l'évasion, ayant été traduits à l'Olivier, et puis un troisième livre, je crois, le sera plus tard, qui est un essai qui s'appelle Miss Herbert. Voilà, pour l'instant. Je voudrais commencer simplement, Olivier, par finalement, d'une certaine façon, le choix de ce thème, ou plutôt une question liée directement à ça, et la remarque que je faisais, à savoir que la littérature américaine constitue la colonne vertébrale, au fond, de la littérature étrangère à l'Olivier. Et je voulais savoir comment on en était arrivé là, au fond. Est-ce que c'est un choix délibéré que de devenir un éditeur en France de littérature américaine de façon privilégiée, en quelque sorte, ou prioritaire, ou est-ce que les choses se sont passées très progressivement, assez naturellement, sans que véritablement une décision ait été prise à un moment donné?
Je ne sais pas si c'est un choix, mais enfin, ça y ressemble beaucoup, en fait. Parce que il y a exactement 20 ans, au moment de la création de cette maison d'édition, j'ai appelé un certain nombre d'écrivains américains que j'avais publiés dans une vie éditoriale antérieure, et je leur ai posé une question qui engageait beaucoup notre avenir. Je leur ai dit, est-ce que vous seriez d'accord pour que votre prochain livre et vos prochains livres soient publiés aux éditions d'Olivier? Et à ma grande surprise et à mon grand soulagement, ils ont dit oui. Et parmi ces auteurs, il y en avait un certain nombre qui avaient déjà publié pas mal de livres, qui étaient déjà connus, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais enfin, ça a été immédiat. Ces premiers auteurs, l'arrivée de ces premiers auteurs était préparée par ce qui avait précédé. Et en fait, il ne s'agissait pas seulement d'auteurs isolés, parce que je n'y crois pas tellement aux auteurs isolés. D'ailleurs, la première partie de cette soirée, je crois, le montre. Il y a toujours une espèce de réseau d'affinité qui se crée, qui est assez mystérieux. On n'a pas d'affinité avec tout le monde, mais avec certains. Et finalement, ce réseau se transforme en maison d'édition, parce qu'une maison d'édition, c'est avant tout, évidemment, des auteurs. Donc il faudrait, je ne veux pas remonter trop loin en arrière. Mais
non, mais tirons quand même le premier fil, en quelque sorte, le point de départ de ce réseau qui est antérieur légèrement aux éditions de l'Olivier.
Il y a quelques noms qui me viennent à l'esprit. Il y a par exemple, je dirais, employer un mot un peu technologique et donc absurde, mais la tête de réseau, c'était évidemment Raymond Carver, qui était mort quand j'ai créé l'Olivier depuis assez peu de temps, puisqu'il est mort en 88 et les premiers livres ont paru en 91. Mais j'ai dit à l'époque que si on pouvait dédier une maison d'édition à quelqu'un, comme on dédie un livre, ça aurait été sans doute au début à lui. Et donc on a publié des textes de lui, mais aussi des textes de gens qui étaient ses amis. Et je pense par exemple à Richard Ford, puisque le premier livre qui a paru sous cette couverture avec l'arbre, c'était un livre de Ford qui s'appelle « Une saison ardente ». Et deux ans après, on a publié un roman de Jay McInerney, qui était connu, McInerney était connu d'un, disons, d'une sorte de confrérie, comme ça, de lecteurs qui avaient lu ses livres, mais il n'était pas très, très connu encore. Et avec ce livre, 30 ans et des poussières, ça a été un énorme succès, son premier grand succès en France, et du coup, ça a été le premier best-seller de l'Olivier en 93.
Et Jay McInerney qui a été l'ami et l'élève de Raymond Carver.
Oui, mais quand j'ai parlé pour la première fois à McInerney, ça fait maintenant fort longtemps, je crois que c'était en 84, quelque chose comme ça, avant la publication de Bright Lights Big City en France, je n'avais aucune idée de qui il était. Et c'est seulement après que j'ai appris qu'il avait été l'élève de Carver et que c'était Carver qui lui avait fait écrire Bright Lights Big City en l'obligeant, en l'enfermant quasiment dans son appartement et en lui interdisant de sortir tant qu'il n'aurait pas fini d'écrire son livre. Oui, parfois ça marche, hein, ce genre de... C'est parfois ça ne marche pas, mais parce qu'à l'époque, McInerney était dans une période... où il absorbait une quantité de substances qui semblait lui procurer, enfin lui être nécessaire en tout cas, substances illicites, mais qui surtout l'empêchaient d'écrire. Et il passait ses nuits à faire la fête, et donc l'oncle Carver lui a dit « tu restes là et tu écris ». Mais ça, je ne l'ai su qu'après, de même que je n'ai su... qu'après avoir acheté les droits de Bright Lights Big City, que c'était un énorme succès aux États-Unis, qu'il était numéro un depuis des mois.
Mais en revanche, c'est au moment où tu as publié Bright Lights Big City, me disais-tu, que tu as eu le sentiment de devenir un éditeur de littérature américaine.
Oui, d'ailleurs, je suis content parce que j'ai aperçu, là on voit rien, mais... d'où on est, mais j'ai aperçu tout à l'heure dans la salle Michel Lapôtre et Michel était l'agent, enfin dans la chaîne des agents qui menaient à Jay McInerney et elle m'avait envoyé les épreuves de ce livre, je ne sais pas si elle s'en souvient, et je lui avais dit écoutez, c'est formidable ce livre, mais on a vraiment très très peu d'argent et Michel m'avait dit, c'est pas grave, ça n'est qu'un premier roman. Enfin bon. Et quel premier roman ? Mais bon, pour répondre à la question, qu'est-ce que ce livre avait de plus que les autres ? En fait, il n'avait rien de plus que les autres, mais il y avait quand même une petite différence, c'est que on avait l'impression, quand on lisait Bright Lights Big City, que ce livre nous parlait de nous, de notre... Alors, bon, comment est-ce que c'était possible, cet auteur américain qui menait une vie nocturne, qui n'était pas nécessairement celle de tout le monde, et en tout cas pas de tous les Français qui le lisaient, y compris moi. Mais il y avait quelque chose dans sa manière d'écrire, qui c'était comme s'il nous avait dit, vous voyez, on peut écrire des romans qui nous parlent de notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. D'une manière très, très directe, très immédiate, très littéraire aussi. Hein, mais on n'avait pas le sentiment qu'on s'adressait à la littérature américaine telle qu'elle peut être dans les histoires de la littérature américaine. C'était la littérature américaine du moment. Hein, elle reflétait quelque chose de l'intensité et du chaos, des impressions que nous donnait la vie que nous vivions dans les années 80. Et quand je dis que c'était très littéraire, j'en suis absolument certain, parce que ayant relu ce livre 20 ans après, eh bien, je ne suis pas le seul à avoir cette impression. Je pense que ce livre n'a pas bougé. Et donc, ça n'est pas un livre simplement d'un journaliste qui aurait décrit ça, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. C'est un livre de quelqu'un qui radiographiait vraiment son époque. Et ça, c'était une bonne nouvelle.
On peut partir de ce point de départ, au fond, pour les éditions de l'Olivier, qui, d'une certaine façon, nous permettent de comprendre le caractère, évidemment, par définition, contemporain d'une maison d'édition qui choisit de publier autre chose que des classiques. En même temps, évidemment, les éditions de l'Olivier, et un peu avant, Olivier Cohen comme éditeur, prennent le train en marche d'une littérature américaine qui a démarré depuis déjà un moment. Donc, comme le thème ce soir, c'est « The Great American Novel », je voudrais peut-être qu'on vous donne l'occasion, Marc Onfreville, de nous dire comment vous situez ce moment particulier dans lequel Olivier Cohen monte dans le train avec Raymond Carver et tous ceux qui suivent. Parce que ce n'est pas toujours des effets de génération. D'ailleurs, les choses sont peut-être plus compliquées que ça. Raymond Carver n'a pas le même âge que Jay McInerney, puisqu'il y a une génération d'écart. Et en même temps, il témoigne peut-être d'un même moment, en revanche, de la littérature américaine. Comment vous le percevez, ce moment-là, c'est-à-dire, au fond, ce qui se passe au début des années 80, à partir du début, milieu des années 80, par rapport à ce qui a immédiatement précédé, puis peut-être par rapport à des moments plus anciens, et notamment celui de la naissance du grand roman américain.
Excusez-moi, ce que j'ai envie de dire, j'y pensais depuis tout à l'heure, en entendant les écrivains français tout à l'heure, je me disais, si je ne savais pas qui parle, c'est-à-dire, est-ce que je saurais que je suis là devant des écrivains français, et comment je le saurais? Je le savais, je pense que tout le monde savait qu'on entendait là des écrivains qui n'étaient pas des écrivains américains traduits. Ça pose cette vaste question de, avant même la période que vous évoquez, la question d'une identité du roman américain qui me semble très intéressante, et notamment peut-être même par rapport à ce qu'est le roman anglais, par exemple. Comment l'écriture américaine se définit, alors c'est depuis le début, et je ne vais pas faire un rappel historique qui ennuierait tout le monde, mais c'est depuis le début que la littérature américaine s'inscrit en faux, en vrai, mais en faux, devant, à côté, en marge de la littérature anglaise. Il me semble qu'il y a toute une traversée comme ça. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans une littérature américaine si on ne comprend pas qu'elle se cherche une identité. Et j'y pense jusqu'à ce que vous évoquez, c'est-à-dire jusqu'à la littérature très contemporaine. Il me semble que j'ai été frappé tout à l'heure par le fait qu'on a entendu dans les extraits le nom d'un seul écrivain américain à un moment, peut-être deux. J'ai retenu Oates, il y en a peut-être eu deux, dans des passages cités. J'ai envie de dire comme ça, spontanément, que si on avait fait ça avec des écrivains américains, on aurait entendu 15 noms, comme si, 19, comme si les livres américains, le roman américain est toujours aussi en regard de ses voisins, en regard de ce qui l'a précédé immédiatement, et à une espèce de réflexivité, enfin une façon de se regarder écrire qui est très différente, je trouve, dans son identité de ce qu'on a entendu là. Je ne mets aucune qualité ni d'un côté ni de l'autre, c'est simplement une constatation comme ça d'une grande chance d'entendre 19 personnes lire des extraits. Et encore une fois, si on faisait... Et
vous l'expliqueriez comment on parle le fait que le roman américain étant relativement jeune, il a besoin de cette réflexivité pour s'auto-renforcer, en quelque sorte, se construire. Il est moins porteur d'une parfois pesante, longue tradition littéraire.
Écoutez, je ne suis pas relativement jeune. Oui, évidemment, au regard des littératures européennes, vous avez sans doute raison. Ce qui se passe, quand même, ce mouvement d'histoire vient donner une espèce d'authenticité, c'est-à-dire ça légitime. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, Great American Novel, enfin, le grand roman américain, c'est l'objet de la recherche d'un écrivain américain sur deux, voire de deux sur trois. Chacun a voulu être le premier grand écrivain américain. Jusque très tard, Hemingway par exemple croit encore qu'il est le... Enfin bon, faire le procès de tous ceux qui l'ont cru avant, mais voilà, il y a, je pense, ce qui n'est pas seulement lié à une jeunesse, je pense, qui est lié, et ça aussi, je pense qu'on peut y revenir, c'est pas seulement une histoire, c'est aussi une géographie. C'est un endroit ailleurs qui parle la même langue que la littérature précédente et qui donc a besoin de se trouver une identité.
Est-ce que je pourrais juste dire une chose qui justifie, entre autres, la présence d'Adam parmi nous, c'est que, tout anglais qu'il soit, c'est que dans mon bureau, j'ai une double page d'un journal anglais agrandi. On voit une photo, et sur cette photo, il y a deux écrivains côte à côte qui regardent l'objectif. C'est Adam Thirlwell et Jeffrey Eugenides. Et j'aime bien cette photo. Elle m'a plu dès le début parce que justement, elle.
C'est une photo horrible.
Oui, oui, oui. Je sais que tu la détestes, mais moi je l'aime bien. Parce que c'est une photo qui dit quelque chose. Et à part le fait que tu n'avais pas dormi la nuit précédant à la prise de la photo, j'aimerais savoir ce que dit cette photo où on voit comme ça deux amis, l'un qui est un jeune auteur anglais. Elle a été prise où ? D'ailleurs à Londres, cette photo, non ? Oui, je crois qu'elle a été prise.
C'était à New York.
À New York.
C'était
à New York. Et un auteur... américain qui n'est pas un vieillard, mais enfin, je ne sais pas quel âge il a, Jeff. Il a 50 ans.
Plus de 50 ans.
Oui, oui, 50 ans. Donc, quand Adam Thirlwell et Jeffrey Eugenides se rencontrent, à part des choses personnelles que tu n'es pas obligé d'évoquer ce soir, qu'est-ce qu'ils se disent ? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire, finalement ?
Tu sais, c'est amusant parce que la première fois que j'ai rencontré Jeffrey, c'était dans un ascenseur, dans un hôtel. À Gothenburg, en Suède, et c'était un festival littéraire, et on se reconnaissait. Et la première chose qu'il m'a dit, c'était que toi aussi, tu es publié par Olivier. Et oui, quand tu parlais de ce réseau, ça existe encore, ça existe toujours. Mais on part. Je pense que ce qui m'attire chez les auteurs américains contemporains, c'est qu'il y a une grandiosité, une ambition. Et je pense que pour un Anglais, c'est toujours très difficile d'écrire la fiction anglaise parce que les Anglais sont obsédés par les trucs comme la classe et tout ça. Et on est vraiment coincé. Ou bien moi, je me sens un peu coincé avec ce côté... assez provincial. Et ce qui m'attire chez les Américains, c'est cette largesse, quoi, cette grandiosité d'ambition. Et donc, ce que j'aime chez Jeffrey, c'est qu'on parle de n'importe quoi. On parle des choses, pour moi, essentielles. On parle du style d'un roman, d'une forme. Et aussi, mais avec Jeffrey, on parle du fait qu'on ne peut pas écrire. C'est pas très intelligent quand on se parle.
Mais est-ce que, pour toi, la littérature américaine, est, à part, occupe une place différente des autres littératures nationales ou linguistiques ? Je veux dire par là que la génération d'écrivains britanniques qui t'a précédé, dont peut-être une des figures importantes serait Martin Amis,
oui.
Ou dans un autre registre, Christopher Hitchens, sont des gens qui ont été fascinés par la littérature américaine, qui a été déterminante pour leur devenir d'écrivain. Et qu'il y avait pour eux une nécessité à se détacher de la tradition littéraire britannique, ouais. Et s'inscrire plutôt dans la tradition littéraire américaine. J'imagine que pour la génération d'après, les choses sont sans doute différentes.
Oui, c'est un peu différent, mais parce que le cas d'Aimé, c'est très intéressant, parce que oui, évidemment, son père aussi était romancier. Et
Britannique.
Et très britannique, oui, exactement comme ce que je disais, très obsédé par la classe et tout ça. Et je pense que Amy, c'est très intéressant qu'il a choisi Nabokov et Bellow comme ses pères, un Américain exilé et un Américain juif. Et je pense que, oui, il a été attiré par ces auteurs parce qu'ils n'étaient pas du tout anglais. Qu'il y avait, et je pense que chez Bellow surtout, c'était presque ce côté mystique. Il y a une sauvagerie dans Bello que je pense que Amis adorait. Et après, oui, pour, et donc Amis a inventé cette, son style qui est vraiment un style américanisé. C'est presque une pastiche de Bello. Et oui, donc, après, je pense que c'est un peu différent parce que je pense que... Je ne sais pas, je pense que c'est très compliqué. Je ne sais pas si je regarde la littérature américaine comme une branche de la littérature anglaise, anglophone, ou bien si c'est quelque chose à part, ou bien si la littérature française représente quelque chose de très différent. Je ne sais, c'est vraiment difficile, mais je pense que c'est ce côté sauvage que j'adore chez les Américains.
Marc Onfreville, une branche, vous avez l'air de, oui, bon, de
branche,
tiquer.
Une branche m'a fait un peu tiquer, mais c'est de bonne guerre. Enfin, je veux dire que moi, je dis toujours aux étudiants, quand on essaie de les attirer vers les études américaines, enfin, la littérature américaine, au contraire de la littérature anglaise, écoutez, j'ai pleuré en lisant David Copperfield quand j'avais votre âge. C'est l'histoire d'un pauvre orphelin qui est battu par son vilain beau-père et qui fait son chemin dans la vie, etc. Et la même année, enfin, à une année près, pendant que les Anglais écrivent ça, pendant que Dickens écrit David Copperfield, un Américain vous parle de la poursuite d'une baleine blanche dans tous les océans de la Terre. Bon, il y a quand même là quelque chose de ce que vous disiez d'ailleurs, de l'envergure qui reste. Alors voilà, c'est comme ça qu'on rejoint un peu mon propos de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des romans très... Il y a Carver, il y a des romanciers américains très intimistes. Mais parce qu'ils sont dans ce regard que j'ai appelé réflexif tout à l'heure, vers une littérature antérieure, par exemple Moody, regarde Poe sans arrêt. Donc on peut, c'est comme si dans chaque livre venait s'engouffrer comme ça, tout se passait un peu de grandeur. Et je suis très sensible aussi à ce que dit Adam de la sauvagerie. Sauvagerie, c'est un mot
wilderness.
Pour lequel on n'a rien en français. Voilà, sauvagerie est une traduction, mais on entend bien wilderness dedans. On entend ce qu'il y a de wild, oui, comme un espace. Je parlais de géographie
et
aussi.
Et c'est à l'intérieur aussi.
Je crois. Oui, et qui effectivement fait reflet vers une sauvagerie intérieure. Donc,
parce que je pense qu'il y a un document peut-être assez important pour tout ça, cette discussion, c'est un livre qu'a écrit T.H. Lawrence, une étude sur la littérature américaine classique, et il parle de ce côté, il dit qu'il n'y a des romans aussi extrêmes que les romans américains, il parle de Melville, de Hawthorne, et aussi il a une théorie que l'Amérique déteste l'Europe, et qu'il y a presque une lutte idéale contre l'Europe. Et c'est un peu... Il y a ce qu'il décrit, et c'est intéressant parce que lui, évidemment, c'est un Anglais, et il décrit que les Américains se sont toujours un peu méfiants à l'envers de l'Europe et de l'Angleterre surtout. Et je ne sais pas si c'est exactement vrai, mais je pense qu'il y a une vérité là-dedans.
Il y a une défiance, Olivier, mais est-ce qu'il n'y a pas, plus loin même, il suffit de regarder le programme d'édition de l'Olivier, une forme de, d'hégémonie de la littérature américaine. Est-ce que, de la même façon que pour l'art, les choses n'ont pas basculé d'un centre de gravité européen? On sait que pour l'art, les choses sont plus spectaculaires, sans doute autour du milieu du XXe siècle, les choses basculent complètement de Paris à New York. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait un peu à ça, de façon moins nette peut-être, moins caricaturale, s'agissant de la littérature ?
J'espère que non. J'espère que non. Et en fait, je suis sûr que ce n'est pas le cas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quitte à dire des choses paradoxales, mais je pense que la littérature américaine, le roman américain, est français. Oui, absolument. Et je tire cette conclusion de nombreuses conversations avec des écrivains américains qui tous sont fous de la grande époque du roman français au moment où il a été inventé, hein, c'est-à-dire pendant cet âge d'or qui va, je dirais, de 1830 à 1950. Hein, 1950, avec déjà les premiers craquements du premier roman qui va provoquer le début d'une espèce de pathologie littéraire qui fait que les écrivains français vont commencer à douter du fait qu'ils ont raison d'écrire des romans et à force de s'interroger sur la légitimité d'écrire des romans, ils finiront par ne plus en écrire pendant un certain temps. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais je me souviens très bien que la première fois justement que Carver est venu à Paris, je lui ai dit « Ray, qu'est-ce que tu veux voir au premier? Qu'est-ce que tu veux visiter ?» Et je pensais qu'il allait me dire une connerie du genre, je ne sais pas, le Sacré-Cœur, etc. Non, pas du tout. Il m'a dit qu'il voulait voir la maison de Balzac. Je n'ai pas compris tout de suite qu'était Balzac, mais et je lui ai dit, ça tombe bien parce que je n'ai jamais visité moi-même. Et il m'a dit, c'est pas possible. Alors, j'ai dit, si, je ne connais pas, jamais vu. Si je me souviens bien, c'était rue Renoir, dans ce coin-là, dans le 16e. Mais certaines personnes peuvent peut-être m'aider. Bon, mais j'étais, quoi ? Rue Renoir, bon, voilà. Mais j'étais d'abord étonné, puis je me suis rendu compte que quand je leur posais des questions, ils me disaient, Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant. Il semblait que pour eux, les romans et les nouvelles, puisque les short stories... Contrairement à ce que tout le monde prétend aujourd'hui, ce sont aussi les Français qui l'ont inventé. Je sais qu'il y avait aussi Tourguenieff et quelques autres écrivains mineurs, mais c'est quand même Maupassant qui écrivait une nouvelle par jour dans un quotidien qui s'appelait Le Gaulois. On avait même inventé l'équivalent du New Yorker. Alors malheureusement, il n'y a plus l'équivalent en France aujourd'hui, tout ça a disparu, mais c'est très très sérieux. Je pense vraiment que... Le roman américain, c'est la rencontre d'une tradition littéraire évidemment anglophone, avec ce vaste territoire sauvage qui était puisque c'était une colonie, ce sont des colonisés, et la rencontre des plus lettrés d'entre eux avec la littérature française et ensuite la littérature européenne qui a été traduite. Je sais que c'est pas très orthodoxe, mais je dois ajouter encore une chose, c'est française et russe, parce que là je pense à un autre écrivain qui est Jim Salter, que certains peut-être ont lu ici, son livre de chevet, c'est l'autobiographie de Nabokov quand même, Cavalerie rouge d'Isaac Babel, ce qui se comprend un peu quand on se souvient du côté légèrement militariste de Jim Salter. Mais en dehors du côté anecdotique de tout ça, je pense que c'est finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le grand roman américain, qu'on dit narratif parfois, je ne sais pas pourquoi, d'un air un peu condescendant, comme si ce n'était pas bien de raconter des choses, des histoires. C'est vraiment un art qui vient d'une tradition littéraire européenne ancienne, mais qui a été transformée à un point tel qu'évidemment on ne le reconnaît plus. Mais je pense que c'est une erreur d'opposer le roman américain au roman européen.
Marc Onfroville.
On ne va pas faire une querelle de date, mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose à reprendre dans ce que tu dis là, parce que la nouvelle américaine, qui me semble essentielle pour comprendre le roman américain, puisqu'on est en train de parler de roman américain, c'est un phénomène du tout début du 19e, donc juste un poil avant, sans mener cette querelle, avant Maupassant nettement. Poe, c'est quand même... le début de la nouvelle avec quelques Russes qu'on a oubliés, mais c'est quand même, je crois qu'il y a un vrai phénomène qui est lié, c'est pour ça que je le dis en rayant à moitié, qui est lié à l'impossibilité d'écrire pour l'écrivain américain, dont on n'a pas assez parlé. L'écrivain américain a du mal à se faire reconnaître dans un pays qui a autre chose à faire. On est là pour tuer de l'Indien, on est là pour faire de l'argent, on est là pour conquérir. Donc l'écrivain américain a une patrie, je pense, du côté de l'écriture. Et là où je te rejoins, c'est que cette patrie, justement, va regarder vers l'Europe en une espèce de leçon d'écriture. Ça, c'est vrai. N'empêche qu'il y a, à cause de ce regard à travers l'Atlantique, à cause de ce regard rétrospectif, peut-être une spécificité quand même. Enfin, je défendrai cette idée. Voilà.
Et est-ce que la spécificité n'est pas un petit peu plus tard, plutôt au tournant du 19e et du 20e, avec des gens comme Henry James, enfin, des gens qui sont peut-être les derniers Américains à véritablement aller étudier en Europe. À partir de ce moment-là, après, les universités américaines seront suffisamment puissantes pour conserver les étudiants sur place, mais, et on perdra la tradition, enfin, en tout cas, elle continuera d'exister, mais peut-être pas aussi massivement par la suite.
C'est curieux que vous disiez ça, parce que James, c'est quand même quelqu'un qui fait le choix de l'Angleterre, justement.
Oui, hein, mais donc... je le mets comme dernier, ouais. Dernier alors, moi, représentant j'aurais... de cette tradition continentale aux États-Unis, au fond.
Moi, j'aurais peut-être dit l'inverse, juste comme ça, pour voir ce que ça fait. J'aurais peut-être dit qu'il y avait une vraie, du côté du wilderness de tout à l'heure, hein, entre wilderness et wildness, du côté du sauvage, il y avait quelque chose de très spécifique et très autochtone au XIXe siècle en Amérique. Que justement, quelqu'un comme James va ramener vers l'Europe physiquement. Lui, il choisit d'être anglais, je répète, ça me semble important. Et puis, il y a les Hemingway, il y a les Fitzgerald, il y a les Stein qui non seulement regardent vers l'Europe, mais y vont, s'y installent. Donc, il y a un contre-mouvement justement de rapprochement. Et alors, c'est peut-être à vous de parler de 20e et d'auteurs plus contemporains, enfin, que je connais moins. Il me semble que, enfin, pour les quelques-uns que j'ai traduits, moi, il me semble qu'il y a une recherche à nouveau d'ancrer dans un paysage, dans une réalité américaine, du côté de la littérature très contemporaine.
Donc ce serait le contraire de ce qui prévaut pour la philosophie et le frère James, oui. Qui lui fonde une philosophie spécifiquement américaine à ce moment-là.
Absolument, oui. Ouais.
Mais je pense aussi qu'il y a une bifurcation presque, parce que vous avez mentionné Melville, mais ce qui est intéressant, c'est que Melville n'était pas du tout connu de son vivant. Absolument. Et... je suis sûr qu'un auteur comme James serait horrifié si on lui disait qu'il était le porteur du wilderness d'Amérique. Il se considérait absolument comme un Européen. Et je pense que ce qui m'intéresse avec les Américains, il y a toujours cette bifurcation. Il y a les exilés, presque les Européens, comme alors il y a la lignée de James, Stein, Fitzgerald et tout ça. Et c'était seulement dans les années 20, je pense 20 et 30, que Melville a été découvert par la critique. Et c'était presque contre l'hégémonie de James, parce qu'eux, ils adoraient l'Europe. Et je pense que ça, la politique, tout ça, c'est intéressant.
Oui, tout à fait.
Olivier, peut-être on pourrait parler, revenir à ce qui était le point de départ de la discussion, à savoir le moment auquel... tu commences à publier la littérature américaine, donc ces années 80, et la manière dont ce moment s'inscrit, là aussi, peut-être en faux par rapport à ce qui l'a immédiatement précédé et qui ne correspondait pas précisément à ce côté narratif que tu pointais tout à l'heure. C'est-à-dire que là aussi, peut-être il y a eu un effet dans l'autre sens d'influence du nouveau roman ou d'autres formes d'expérience littéraire européenne sur la littérature américaine dans les années 60 avec des auteurs comme Coover ou Pynchon enfin ils sont assez nombreux et en même temps apparaissent au début des années 80 des gens qui viennent rompre au fond avec ce côté un peu plus expérimental de la littérature américaine.
Il y a plusieurs choses qui se mêlent là. Il y a d'une part cette chose dont on parle depuis le début, qui est ce mouvement de va-et-vient entre des deux côtés de l'océan, les uns influençant les autres et vice-versa. Et il y a aussi des ruptures, des mouvements, je crois, de rupture, pas nécessairement d'une génération à l'autre, quoique souvent ça y corresponde, mais des ruptures dans la manière d'écrire. Et ça me paraît assez clair, par exemple, que certains écrivains des années 80, comme ceux qu'on a cités, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, étaient en rupture avec ce qu'on a appelé les postmodernes des années 70. Et d'ailleurs, c'est une chose qui n'est pas très connue, mais je reviens aux écrivains qu'on appelait minimalistes. Et Carver, pour le nommer encore une fois, détestait cette expression parce qu'elle avait été employée par un critique du New York Times qui était lui plutôt en faveur des postmodernes, qui n'aimait pas du tout cette nouvelle nouveau genre d'écriture que représentaient Carver, Ford, Tobias Wolff, Jane Ann Phillips, tout un tas de gens. Et il disait, ce sont des écrivains minimalistes, c'est-à-dire ils n'ont pas grand-chose à dire et ils le disent avec peu de mots. Et donc, ce n'était pas particulièrement élogieux. Hein. Donc, il y a eu des polémiques quand même, des ruptures, des brouilles entre des écrivains de ces diverses générations successives. Et pour en arriver à Jeffrey Eugenides, Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, etc., etc., il s'est passé beaucoup de temps pour que une certaine... pour qu'on signe l'armistice et que des écrivains puissent publier, être reconnus et avoir même pour certains un très grand succès sans avoir à se réclamer d'une école, d'un mouvement, d'un genre, etc. Et je pense que c'est lié en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie, au fait qu'il y a une espèce d'hybridation, je ne sais pas si ça se dit, de la littérature américaine. C'est-à-dire que dans les générations précédentes, un écrivain américain, c'était quelqu'un justement qui s'inscrivait ou qui construisait une identité définie. Mais comme chacun sait, les Américains, un grand nombre d'entre eux, sont des immigrés, des gens qui arrivaient d'ailleurs et qui se sont intégrés et même assimilés. Or, les auteurs dont je parle, les plus récents, bien souvent, ne sont pas du tout d'accord pour cette assimilation-là. Ça serait intéressant d'en parler, je trouve, parce que je rappelais tout à l'heure à Adam un souvenir d'il y a pas une dizaine d'années à Paris, lors d'une rencontre sur la littérature juive américaine, si une telle chose existe. Et il y avait là un jeune auteur qui s'appelle Nathan Englander et qui se moquait gentiment de Philip Roth. Gentiment parce que c'est difficile. Enfin, il était un peu jeune pour se mesurer à lui, mais qui disait, qui expliquait que lui, ça ne l'intéressait pas du tout de s'intégrer. Et un peu comme un autre auteur, Gary Steingart, qui avait dit « Moi, je ne m'intègre pas, je me désintègre. » Je crois que ce qu'il voulait dire par là, semble-t-il, c'est que, bien sûr, ils se considéraient comme des écrivains américains, mais ils ne voyaient pas pourquoi ils ne seraient pas aussi juifs, russes, coréens, africains, pourquoi pas. Cette identité, elle devient beaucoup plus problématique qu'elle ne l'était avant. Et si je cite Roth, c'est parce que je me souviens d'un article qui avait été publié et traduit à la une du Monde, et qu'il s'appelait un écrivain américain. Il disait, je ne suis pas un écrivain juif américain, je suis un écrivain américain. Comme disait Charles Bukowski aussi, la seule fois où il est passé à la télévision en France, et il avait un peu bu, même beaucoup, mais je me souviens encore de lui disant, de sa voix éraillée, « I'm an American writer ».
Qui veut réagir sur ce côté fragmenté, peut-être davantage communautarisé de la littérature américaine avec des guillemets.
Un petit peu comme ça. Ce qui me vient, c'est peut-être que c'est une réponse au branch dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la littérature américaine comme une branche de la littérature anglaise. C'est largement, ce qui empêche qu'on dise ça, et je pense que Adam serait d'accord, c'est précisément les apports. C'est-à-dire la langue américaine devient une toute autre langue parce qu'elle se colore d'autres choses. Ça aussi, ça commence assez tôt, je suis désolé, mais Twain, par exemple, se distingue par le fait qu'il va le premier retranscrire phonétiquement, plus ou moins, la langue noire américaine. Donc, s'inscrit dans la langue. Par exemple, Roth, on pourrait avoir cette discussion avec Roth. Il dit, je suis un écrivain juif, je suis un écrivain américain, mais je ne suis pas un écrivain juif américain. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? Il dit, je ne veux pas qu'on m'enferme dans une catégorie que je n'ai pas choisie, mais il sait aussi que sa langue est complètement imprégnée du yiddish qu'il ne parle pas. Par exemple, il dit ça. Je trouve que c'est une assez belle image. C'est-à-dire, il sait combien il a une syntaxe qui est reconnaissable. Là aussi, on pourrait faire le jeu que j'envisageais tout à l'heure pour la littérature française. On pourrait cacher le nom d'un auteur et savoir que c'est un auteur juif et américain sans pour là. Donc peut-être que ce morcellement-là, ça vient dire quelque chose d'une variation de la langue. la langue américaine s'est enrichie de tout ça, et pas enrichie de façon plate. Enfin, c'est coloré, a pris des couleurs. On voit bien, il n'y a pas si longtemps, une émission sur les écrivains américains face à la politique. C'était le moment de juste après Bush. Hein, et on voyait bien comment, de chaque communauté qu'ils venaient, ils se reconnaissaient dans une identité d'écrivain. Et en les poussant un peu, hein, Paul Auster disait, par exemple, « Moi, je ne suis plus américain avec un homme comme Bush. Je ne suis plus un américain. Je suis un écrivain de New York. » Il y a des choses comme ça, le fragmentaire qu'on pourrait mettre bout à bout un peu.
Adam, on a l'impression que ça ressemble aussi un peu à ce qui s'est passé peut-être un tout petit peu plus tôt en Grande-Bretagne avec une sorte d'éclatement de la littérature publiée à Londres, cette génération de l'Empire contre-attaque, comme on a dit, et on a l'impression que la même chose s'est produite aux États-Unis avec des gens s'étant installés, ayant grandi aux États-Unis, mais venant d'autres, par exemple la littérature d'écrivains africains américains et pas afro-américains, mais aussi venant d'autres, enfin Chiang Rai-li pour prendre un exemple d'un écrivain publié à l'Olivier, oui. Coréen.
Mais le problème, je pense que cette question d'identité, c'est vraiment vexé parce que. Oui, si on prend le roman anglais en tant qu'anglais, il y a aussi récemment beaucoup des auteurs importants, ils proviennent de l'Inde et l'anglais n'est pas du tout leur première langue. Et il y a aussi cet enrichissement de la langue qui est très pareil, je crois, à ce que Bello a fait en mêlant le yiddish et tout ça à l'anglais. Mais je pense qu'il y a une différence, parce que je pense à mon ami Zadie Smith, qui déteste être décrite comme une écrivaine noire, en quelque sorte. Elle est anglaise, et c'est tout ça. Et ça me rappelle, il y avait un moment où j'ai écrit un petit article. Moi, je suis mi-juif. J'ai écrit un petit article avant la parution de mon essai sur la traduction et l'idée de l'international dans la littérature et dans un petit journal juif, et c'était un petit manifeste pour les mi-juifs, et c'était absolument désinvolte. Une semaine après, l'éditeur m'a appelé, m'a dit tu sais que Cynthia Ozick, la grande écrivaine américaine et juive, va écrire quelque chose contre toi maintenant. Et ce que Cynthia Ozick a écrit, c'était vraiment intéressant. Elle m'a dit, je pense que c'était seulement une Américaine qui pouvait l'écrire. Elle m'a dit que Adam Thirlwell est en danger de perdre sa génie. Et j'ai aimé cette phrase, mais s'il refuse sa judéité comme ça, et s'il continue à refuser et à jouer comme ça avec le judaïsme, il va se perdre. Et c'était absolument. Et pour moi, c'était comme si on ne parlait pas du tout la même langue.
Si tu permets, Olivier, j'interviens, c'est assez drôle. Je ne sais pas si tu sais ça, qu'on publie aussi Cynthia Ozick.
Oui, je l'aime beaucoup. Bon. Elle me déteste, mais.
Nous allons vous réconcilier. Okay. Mais quitte à rendre les choses encore plus bizarres, je me souviens très bien de quand on a commencé à publier Cynthia Ozick. C'était avant l'Olivier. C'était aux éditions Mazarine. Et. À l'époque, on était l'éditeur d'un écrivain américain très généreux, un grand esprit critique, qui s'appelle Edmund White. Et je lui avais demandé, comme ça, est-ce que tu pourrais me faire lire des choses qui te paraissent vraiment importantes, intéressantes. Et il m'avait donné des livres à lire de Cynthia Ozick. Et je lui avais demandé de me la décrire littérairement, qui elle était, de lui faire un portrait littéraire. Et il avait dit, Cynthia Ozick, c'est une sorte de Flannery O'Connor qui serait juive. Et bon, j'étais assez impressionné par ce qu'il avait dit. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux développer? Il m'a dit non, je n'ai pas envie de développer, mais... simplement sa grandeur, c'est sa colère. Alors, je vois avec, avec plaisir que sa colère est toujours intacte, qu'elle cherche toujours de nouveaux objets. D'ailleurs, je t'annonce que nous allons, je vous annonce, et je pense que c'est une espèce de synthèse de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, que nous allons publier l'année prochaine le dernier livre de Cynthia Ozick, qui est une sorte de version moderne, sinon contemporaine, des ambassadeurs de Henry James. C'est vraiment intéressant, c'est-à-dire une grande romancière juive américaine qui écrit aujourd'hui. Ce n'est pas un pastiche, hein, mais enfin, elle revisite Henry James, qui est, avec entre autres Jane Austen, l'écrivain qu'elle vénère. Quoi. Ça vous dit quelque chose?
Oui. On ne peut qu'être content. Enfin, je veux dire, c'est la preuve de ça vient expliquer là de plein de choses
mais,
qu'on
pardon,
a résumé.
Pardon, je ne veux pas monopoliser la parole là-dessus, mais je voudrais revenir à cette notion d'hybridation parce que c'est un peu ça que je voulais dire de manière totalement non orthodoxe en parlant des influences du roman français. Ce que je veux dire, c'est que je crois que ce qui m'attire et souvent nous attire, je crois, dans cette littérature, c'est sa capacité justement à engendrer quelque chose d'autre toujours, hein, de ne pas se contempler toujours comme dans un miroir. Il y a quelque chose de différent qui sort, qui apparaît, qui n'est pas toujours le même. Et je crois que ça crée une espèce d'énergie enfin, très littéraire, très forte. Mais d'ailleurs, toi-même, tu fais ça, parce que dans ton dernier livre, Une évasion, si tu permets que je raconte une petite anecdote, donc c'est un livre qui se passe dans une ville d'Europe centrale, et je ne dirais pas que c'est un roman d'Europe centrale, c'est un roman écrit par un écrivain anglais, Adam Thirlwell, mais enfin, et on cherchait une image de couverture pour illustrer la couverture de ce livre. On en a trouvé une qu'on t'a envoyée, et tu as répondu: ah, quelle coïncidence, c'est la même image que la couverture d'un livre de Hrabal, ce grand écrivain tchèque. Et tu as ajouté, d'ailleurs, dans mon livre, il y a un certain nombre d'emprunts à Hrabal. C'est vrai, hein? Bon.
Je ne me souviens plus.
Oui, mais en fait, tu l'as dit. Hein? Donc, cette idée que, finalement, il y a pour l'écrivain une liberté totale de puiser chez les autres, dans les autres littératures, pour écrire ses propres livres. Bon, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps, qui est, même dans l'Antiquité, qui est bien antérieure à la littérature américaine. Mais je pense que cette liberté-là, on la retrouve dans cette littérature américaine contemporaine. Et c'est sans doute une des choses qui nous séduisent.
Mais parce que quelque chose, ce qui me frappe, c'est que peut-être c'était plus simple d'être Bello. Il me rappelle, il y a un moment dans l'histoire du cinéma, Hugo Dard parle et il dit, oui, c'était facile ou c'était possible pour nous dans les années 50 de savoir l'histoire du cinéma. Et maintenant, un homme de 25 ans ne pouvait pas comprendre le cinéma en tant que tel, et donc il est seul maintenant, il est seul devant le cinéma. Alors que nous étions dans une famille, quoi. Et moi, je pense que peut-être cette espèce de, pas de globalisation, mais le fait que la traduction est beaucoup plus répandue, je pense que cela va mener des effets, et je ne comprends pas exactement ce que seront les effets, mais je pense que maintenant, cette idée de l'influence, de ce qu'on vole, des maîtres à penser, tu sais, ça c'est beaucoup plus compliqué maintenant parce que la littérature maintenant existe globalement et donc en échantillon, quoi. Il n'y a plus une littérature entière. Ça veut dire quelque chose. Je pense que cette idée de ce qu'on essaie de copier, tu sais, c'est on vole partout.
Globalisation, tu veux dire mondialisation, c'est ça?
Ah oui.
Oui.
Marc Onfrey, il y a une chose dont on, qu'on a juste citée en passant comme ça à propos de l'idée qu'il y aurait des écrivains de New York, par exemple. On parlait d'un mode de fragmentation qui est celui des différentes cultures d'origine ou autres langues. Mais il y a aussi une fragmentation qui est plus géographique, qui a servi longtemps et encore aujourd'hui à caractériser certains types de littérature américaine. Mais est-ce que ça existe vraiment encore à ce point, ou est-ce qu'on est face à ce phénomène de globalisation? Quand on parle de Jay McInerney, au fond, on le rattache à quoi? Certes, il a émergé à un moment particulier de New York, mais après avoir habité ailleurs aux États-Unis, ensuite s'installer dans le Sud et écrire des romans qui avaient quelque chose du Sud des États-Unis. Bret Easton Ellis a choisi de s'installer en Californie et il n'est pas un écrivain new-yorkais aujourd'hui. Est-ce que vraiment ça fait sens de localiser, au fond, la littérature américaine?
Écoutez, je crois que ça fait sens quand ça fait sens pour l'écrivain. C'est-à-dire qu'il me semble que... ce que vous dites est juste, évidemment, les écrivains bougent, ils sont moins clairement rattachés à un terroir, même américain. Cela dit, un écrivain du Sud, ça se reconnaît comme un écrivain du Sud. Il y a, à cause des phénomènes d'héritage dont on parlait tout à l'heure, on n'en a pas parlé du tout, il y a le nature writing qui naît aux États-Unis quand même. Il y a quelque chose qui se passe là de très spécifique, de ce rapport, vous avez parlé de grandeur tout à l'heure, de grandiose et tout ça, il y a quand même quelque chose qui est infiniment lié à un espace, et il me semble qu'il y a du côté de nature writing quelque chose qui ne ressemblera jamais. Les écrivains du Montana écrivent comme personne d'autre n'écrit. Et je dis personne d'autre, c'est-à-dire personne d'autre aux États-Unis, dans ma petite connaissance des choses, c'est-à-dire ni aux États-Unis, ni ailleurs. Je veux dire, un écrivain de la montagne en France n'écrit pas la langue des rocheuses des écrivains du Montana américain. Rick Bass ne ressemble à personne.
Il y a un cas intéressant, pardon de revenir encore à lui, mais je pense qu'il est vraiment intéressant, c'est que je pense encore à Richard Ford, parce que quand il a écrit ses premiers livres, tout le monde a dit « Ah, voilà un grand écrivain du sud des États-Unis, un descendant de Faulkner, de tous ces auteurs profondément enracinés dans le vieux sud ». Et dans un sens, c'était vrai, par bien des côtés. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle The Sports Writer, qui l'a rendu vraiment célèbre. Mais alors là, ça a été la stupeur, parce que du jour au lendemain, il est devenu l'écrivain des banlieues résidentielles du New Jersey, qui avait déjà été décrite par d'autres auteurs, par John Updike, par John Cheever, par un certain nombre de très grands auteurs. Et surtout, ce qui est curieux, c'est qu'il a continué. Il a continué. Et donc, ça a été un peu panique à bord. Comment se fait-il que cet écrivain du Sud devienne subitement un écrivain de l'Est? Et puis, tout à coup, il s'installe dans le Montana. Et il devient, aux yeux de certains, un des fondateurs de la célèbre école du Montana, qui n'a jamais existé quand même, il faut le dire, hein, qui est une pure légende, mais c'est très bien les légendes. Hein, bon. Et d'ailleurs, peut-être ça serait intéressant de revenir là-dessus. Mais, et puis ensuite, il s'est mis à écrire des livres inclassables. Un jour, on lui a demandé quelle était sa patrie, finalement. Et il a dit, ma patrie, c'est la langue anglaise. Enfin, la langue anglaise qu'on écrit en Amérique. Mais surtout pas l'idée qu'on puisse le considérer comme un écrivain du Sud glorifié, parce qu'il a quitté, il est né à Jackson, Mississippi, et il a quitté Jackson et le Sud, sauf, bon, après il a vécu à la Nouvelle-Orléans, mais parce qu'il ne supportait pas le racisme qui subsistait encore dans le Sud, enfin il supportait plus le Sud, quoi. Et donc voilà un écrivain qui semble échapper à toutes les classifications, mais qui néanmoins a appartenu à différents moments d'une légende. Et je pense que finalement, la légende est peut-être un élément essentiel pour être un écrivain américain ou un écrivain tout court.
ça m'amène à une autre question à Adam Thirlwell cette fois, parce que je me souviens d'une surprise quand je suis parti vivre à Londres à la fin des années 80. Et la surprise consistait à ne pas trouver dans les librairies londoniennes des auteurs américains qui commençaient d'être traduits en français et connus en France, voire considérés comme de grands écrivains américains, qui étaient parfaitement inconnus des libraires anglais et du public anglais. Je veux parler, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, de Jim Harrison, pour lequel il a fallu attendre d'Alva pour que vraiment il soit lu à Londres, alors qu'il y avait déjà une dizaine de livres publiés en France depuis une quinzaine d'années. Mais c'est vrai aussi pour John Fante, par exemple, totalement inconnu en Angleterre et connu ici par le travail de quelques-uns, notamment de Philippe Garnier. Mais c'est étonnant, ce décalage, cette curiosité qu'il peut y avoir en France pour une littérature américaine et qu'on ne trouve pas en Angleterre, alors qu'il n'y a pas de problème de traduction, que ça coûte beaucoup moins cher, évidemment, du coup, de distribuer, même ne serait-ce que distribuer ou rééditer en Angleterre. Comment expliquer ce décalage, Adam, entre le... une sorte de malaise de la littérature anglaise avec...
Oui, vous avez raison, c'est vrai. Il y a des auteurs aussi, comme Bukowski aussi, il est connu un peu en Angleterre, mais je ne suis pas sûr s'il est encore publié. S'il est... Et oui, je ne sais pas si je peux l'expliquer. Peut-être, il y a toujours en Angleterre ce côté un peu provincial, et je pense qu'ils rejettent beaucoup, et pas simplement les Américains. Et donc, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'écriture américaine qui a du succès en Angleterre, qui est assez anglais, comme Updike, Cheever. Et je pense que, oui, c'est vrai que quelqu'un comme Fante ou quelque chose comme ça, ça... Il y a peut-être une brutalité dans l'écriture qui n'est pas du tout anglaise. Je ne sais pas si on
mais peut inversement, des écrivains américains très influents pour les écrivains britanniques, comme Joe Heller ou Kurt Vonnegut, par exemple, sont peut-être moins influents en France.
Ouais.
C'est Marc Onfreville.
Non, moi j'ai un temps de retard parce que je réfléchis depuis tout à l'heure à cette histoire de Ford que j'ai, mais je vais reviendre de Ford, de Richard Ford, qui est venu à Vincennes dans le cadre du festival et qui m'avait dit, je lui avais fait à peu près cette observation, quoi, comment êtes-vous à la fois un écrivain du... Il m'avait répondu, je veux écrire là où on ne m'attend pas. Ce que je trouve très intéressant dans la lumière de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, il me semble que de ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire cette réflexivité. L'écriture américaine se regarde, chaque écrivain se regarde avec une espèce de conscience de la langue. J'ai été catalogué écrivain du Sud, je vais faire autre chose. Il y a une espèce de on pourrait peut-être passer de sauvagerie, enfin de la wilderness de tout à l'heure, à subversion tout simplement. Il y a une volonté subversive constante comme ça, et c'est intéressant de voir que ça peut être à l'échelle d'un écrivain, mais aussi à l'échelle de plusieurs, c'est-à-dire peut-être que l'école de Montana n'existe pas en tant que telle, on le sait tous, mais elle vient quand même, ces écrivains ensemble viennent dire là quelque chose, à, nous ne sommes pas l'écrivain ni du Sud, ni l'écrivain de New York, ben, il y a des lieux comme ça. Des lieux qui se retrouvent dans la langue. Et moi, ça me semble fascinant de voir comment ce pays produit des littératures différentes. On fait comme si, depuis le début, comme s'il y avait une littérature américaine. Il y a des. Et peut-être qu'il y a des littératures américaines qui sont plus facilement importables en Angleterre, d'autres en France. Pour répondre maintenant à votre question, il me semble qu'il y a des affinités comme ça, électives, entre les différents pays, les langues. Oui.
Mais pour que ces hybridations, pour reprendre le mot, se produisent, il faut des passeurs. Et en se parlant un petit peu avant, on réfléchissait à quelles pouvaient être les figures. Alors évidemment, des éditeurs, des maisons comme l'Olivier, des maisons à Londres comme Harville, par exemple, éditeur de Carver aussi. Mais des figures, et on pensait à deux majeurs sur ces 20 dernières années, qui étaient... le directeur d'une revue, Bill Buford, avec Granta, et puis après New Yorker, qui a traversé l'Atlantique des États-Unis vers l'Europe, et puis en sens inverse, un éditeur, Sony Meta, Olivier Cohen.
Oui, d'abord, je crois qu'il faudrait aussi dire qu'il y a d'autres, beaucoup d'autres éditeurs français qui ont publié de la littérature américaine, bien entendu. Je pensais, à cause des auteurs que tu as cités tout à l'heure, à Christian Bourgois, qui était vraiment notre maître à tous dans ce domaine. Mais oui, mais ça, effectivement, ce sont des choses qui sont peu connues du public. Le fait que dans les années 70, il y avait en Angleterre une grande crise dans l'édition et dans la librairie, parce qu'on disait que les livres étaient trop chers. Et un éditeur particulièrement intelligent et raffiné, d'origine indienne d'ailleurs, hindou, Sony Mehta, a créé une collection de poches qui s'appelait Picador et qui publiait en édition originale, en poche, tous les nouveaux écrivains, les Martin Amis, les Julian Barnes, Ishiguro, Ondaatje, etc., qui étaient ses amis. Et le groupe très puissant, qui était premier éditeur au monde, je crois, à l'époque, Random House à New York, lui a proposé de diriger le vaisseau amiral de leur groupe qui s'appelle Knopf, qui est vraiment oui, une très grande maison d'édition littéraire américaine. Et c'est donc un Anglais d'origine hindoue qui a traversé l'Atlantique pour diriger Knopf, où il a publié non seulement tous les écrivains anglais dont qu'on vient de citer, y compris d'autres comme Ian McEwan et bien d'autres, mais aussi les écrivains américains dont nous avons parlé. Donc c'est quand même assez spectaculaire que cette maison d'édition extrêmement influente était incarnée, et est toujours aujourd'hui d'ailleurs, incarnée par cet homme qui a réussi une espèce d'union comme ça des littératures anglo-saxonnes.
Et tous ces noms qu'on retrouve aussi dans les génériques des différents numéros de Grand A.
Exactement. Alors Grand A, c'était une histoire inverse, mais assez drôle. C'est que il y avait un étudiant à Cambridge qui était un étudiant américain qui s'appelle Bill Buford, donc, et
qui vit à Lyon maintenant.
Qui vit à Lyon, oui, oui, parce qu'il est passionné par la cuisine française, figurez-vous. Et donc Bill Buford, avec qui j'ai été très ami pendant toute une période, Bill Buford avait cette particularité étonnante qu'il dirigeait la revue littéraire des étudiants de Cambridge. C'est assez surprenant pour un natif de Chicago qui s'appelle toujours, cette revue s'appelle Granta, puisque à Cambridge il y a deux rivières, la Cam et la Granta. Et il s'est mis en tête non seulement de publier lui aussi tous ces jeunes auteurs anglais nouveaux, il est simplement allé voir les éditeurs en demandant s'ils le laisseraient publier des extraits des livres qui devaient paraître. Les éditeurs ont tous dit oui, parce que de toute façon, ils pensaient que ces livres étaient c'était des jeunes auteurs pas connus, donc ça ne pouvait pas leur faire de mal. Mais surtout, Buford s'est mis à publier aussi la nouvelle littérature américaine. Et il y a des numéros comme ça absolument historiques de cette revue, où on voit tous ces écrivains qui se retrouvent. Et il a même eu le est-ce que c'est un mérite, je n'en sais rien, mais de relancer la littérature de voyage qu'on appelait en France travel writing. Il a abandonné assez vite d'ailleurs, parce que il trouvait ça prodigieusement ennuyeux, à part les auteurs qu'il avait lui-même découverts. Mais bizarrement, les Français ont continué à publier inlassablement des récits de voyage extraordinairement ennuyeux. Mais bon, lui, il avait arrêté depuis longtemps. Mais ça a été un de ces passeurs étonnants. Et avant de se réfugier en France pour apprendre la cuisine lyonnaise, il a fait un bref passage au New Yorker, dont il a été le directeur littéraire. Il a découvert ou fait publier un certain nombre d'auteurs inconnus. Je me souviens très bien de la... Il venait de revenir à New York et on prenait un café ensemble. Donc je lui ai dit, comme je savais que c'était un formidable découvreur, je lui ai demandé quelle était sa nouvelle découverte. Il m'a dit, tu ne peux pas le connaître, personne ne le connaît. Il s'appelle Juno Diaz et il a écrit une nouvelle. Et on va la publier dans le New Yorker. Alors, Juno Diaz, qui était... je pense tout à fait typique de ces hybridations dont on a parlé. Donc c'est vrai, pour que la littérature circule, il faut des gens parfois un peu bizarres, ça, qui eux-mêmes circulent entre les cultures et qui font pas nécessairement la une des journaux, mais qui jouent un vrai rôle.
Ça me donne l'occasion peut-être de parler d'une chose qu'on n'a pas évoquée, puisque le sujet étant le grand roman américain, c'est aussi de voir comment ce roman américain se positionne par rapport à d'autres modes d'écriture de la littérature contemporaine américaine, et notamment dans sa relation de concurrence peut-être parfois avec la non-fiction littéraire. On a le sentiment que avant qu'on entre dans cette période qui démarre au début des années 80, dont on a beaucoup parlé avec Carver, il y avait non seulement ceux dont on a parlé aussi, c'est-à-dire ces écrivains postmodernistes américains, mais il y avait aussi une autre veine de la littérature américaine qui est plutôt une veine, une forme de journalisme littéraire incarné par John Didion ou Tom Wolfe ou à certains égards un peu différemment Hunter Thompson ou des gens comme ça, et donc plutôt dans une veine journalistique que Buford à sa manière personnellement a poursuivi avec son livre sur les hooligans sur le football en Europe ou avec son livre sur un grand restaurant la cuisine à New York. Mais moi j'ai le sentiment que cette veine là continue évidemment, mais qu'une autre est en train de prendre le pas et peut-être de concurrencer le roman aux États-Unis depuis quelques temps, depuis quelques années déjà. C'est ce qu'on a du mal peut-être à traduire un peu en français, parce que c'est pas de l'autofiction, c'est ce qui relève du genre mémoire, comme on dit. On a l'impression qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à feuilleter les suppléments littéraires des grands journaux américains, ce genre est devenu véritablement central. Adam,
oui, je pense que vous avez raison, mais je pense que aussi pour les auteurs de ma génération, la concurrence maintenant, c'est avec la télé. Et la télé, les grandes séries de HBO. Et même parce que j'ai des amis maintenant qui sont en train d'essayer d'écrire pour HBO, et Gary Steingart et plusieurs d'autres. Et je pense que... Mais c'est lié aussi à la concurrence auparavant avec la non-fiction, parce que je pense que il y a une vénération d'un récit et aussi une vénération du fait de la vérité, quoi. Et je pense que les deux sont liés dans cette concurrence avec aussi l'Internet. On peut le voir dans les essais de Foster Wallace, où il est obsédé par le fait que tout le monde ne lit pas, que tout le monde est en train de regarder la télé, sur l'ordinateur, sur l'Internet. Et je pense que des auteurs de ma génération se sentent en concurrence avec les séries sur l'Internet et tout ça. Mais je pense que c'est... Oui. Et peut-être c'est parce que si je reproche quelque chose aux auteurs américains, ils ne soucient pas trop à la forme d'un roman. Ils sont toujours obsédés par le sujet, par ce qu'ils ont à dire. Et je pense qu'il y a un côté européen qui est beaucoup plus obsédé par le style et la forme. Et peut-être ça le sauverait un peu de cette angoisse envers ce que fait la télévision.
Mais comme s'il y avait aussi un partage du travail entre la télévision et les séries télé qui continuent de s'intéresser à l'écriture de fiction, et le cinéma et Hollywood qui, lui, regardent du côté de la narrative non-fiction et des nouveaux journalismes, David Samuels, David Grant, des gens ouais, comme ça qui sont en train d'écrire pour Hollywood aujourd'hui à partir de faits divers ou de, souvent même sur la base d'un très long article pour le New Yorker.
Oui. Oui, parce que je pense que ça fait partie d'une économie littéraire qui n'existe pas en Angleterre, qui est cette espèce de magazine writing. Et c'est comme ça que...
Il n'existe pas davantage en France, même.
Ah non. Plutôt moins. Et cette idée qu'on pourrait écrire un article de 10 000 mots sur n'importe quoi, ça, c'est très américain et ça leur a vraiment formé. Foster Wallace, il a écrit pour GQ, pour le New Yorker, et c'était surtout la non-fiction. Et ça, je pense que c'est intéressant pour ce que font les romanciers. Parce que souvent, ils font les deux. Ou bien, s'ils ne le font pas, un romancier se sent un peu coincé par ça.
Enfin, si, pour revenir à ce que tu disais avant, si le roman américain contemporain devait mourir, tué par les séries, ça serait un vrai problème pour beaucoup d'entre nous qui aimons la littérature américaine et les séries américaines. Et ça serait difficile de, extrêmement difficile d'arbitrer entre les deux. Donc j'espère que nous n'aurons pas à nous prononcer dans cet arbitrage qui pourrait être extrêmement douloureux pour beaucoup d'entre nous. Mais d'ailleurs, ça me permet, je ne sais pas, on va peut-être bientôt s'arrêter, mais je voudrais juste dire une chose très précise, c'est que parce que j'aime la littérature américaine, je suis navré de voir qu'aujourd'hui, on publie énormément de romans américains extrêmement médiocres. Et qu'au lieu de lire ces romans extrêmement médiocres, on ferait mieux de lire de très bons romans français ou de regarder d'excellentes séries qui sont bien meilleures que ces pauvres romans américains mort-nés. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a maintenant une espèce d'obsession avec l'idée qu'il faudrait publier tous les romans américains qui sont publiés, tous les romans qui sont publiés aux États-Unis, ce qui n'a jamais été notre propos à nous autres. Et ça, je pense que c'est une tendance assez pernicieuse. Et pour ma part, je dirais que le principal ennemi de la littérature américaine pour nous aujourd'hui en France, c'est pas tellement les séries, c'est la mauvaise littérature américaine.
Mais ce sera le mot de conclusion, alors. Olivier. Merci Marc Onfreville, Adam Farwell, Olivier Cohen.